Alors maintenant, on va se demander qu'est-ce que peut-on dire de la convection dans le manteau terrestre? C'est le cœur du sujet. Alors, on peut aborder le problème de deux façons. On peut dire, je vais faire des observations qui vont me prouver que le manteau convecte. Des plaques, déplacement des continents, plein d'observations. Ou on peut faire de la théorie, c'est-à-dire je vais calculer le nombre de relais du manteau et je vais voir si ça convecte, s'il est supérieur à 2000. Bien, historiquement, les géologues ont été tellement cons qu'ils avaient toutes les évidences que le manteau devait convecter, mais ils refusaient ça. C'est les physiciens qui ont fait de la théorie et qui ont dit le manteau doit convecter. Wegener, en 1911, avait vu que les continents, leur forme s'emboîtait. Il avait dit, ça s'écartait. Et la preuve que ça s'écartait, c'est qu'il y avait les mêmes fossiles d'un côté et de l'autre. Les géologues disent, ça s'écarte pas. Tout le monde sait que l'intérieur de la Terre est solide. Là, ils avaient raison. Et pour expliquer que les fossiles qu'on trouvait en Guinée étaient les mêmes que les fossiles qu'on trouvait en Guyane, ils venaient des ponts continentaux. Regardez les vieilles cartes. Les animaux terrestres, comme des lézards, allaient de Guinée à la Guyane en passant par un pont continental. Il y avait des isthmes de Panama partout. Wegener disait, les continents sont déplacés, parce que si je vais au Carbonifère, il y a des mines de charbon au Spitzberg. Vous savez où c'est le Spitzberg? Ça s'appelle le Svalbard maintenant. Je vais vous montrer où c'est le Svalbard. Il y a des mines de charbon qui étaient exploitées au début du XXe siècle. Et il y a une source de conflit parce que c'était revendiqué par la Norvège et la Russie. Le Svalbard, c'est là. Il y avait donc des forêts carbonifères, là, au Carbonifère. Au même moment, en Namibie, il y avait des glaciers carbonifères, des stries glaciaires, des moraines, etc. Donc on était assez bon en paléontologie pour voir que c'était le Carbonifère. On ne connaissait pas l'âge absolu du Carbonifère à cette époque, mais on savait que c'était la même époque. Donc Wegener a dit, s'il y a du charbon ici et des glaciers là, c'est que les continents se déplacent. Alors là, les géologues, c'est vraiment un bel exemple d'aveuglement d'une profession, la mienne, j'ai honte, je ne suis pas responsable. Autant ils faisaient des ponts continentaux pour faire passer les fossiles, pour expliquer des glaciers ici et du charbon là, mais ils disaient, je ne veux pas le savoir. Ils n'expliquaient pas, ils se taisaient, ils mettaient la poussière sous le tapis. En science, c'est la plus mauvaise des solutions. Quand il y a un problème, ne pas chercher à le résoudre. Quand il y a un problème, il faut chercher à le résoudre. Plus difficile en science, en fait, c'est même pas de résoudre des problèmes, c'est de les trouver. Donc, hélas, ce ne sont pas les géologues, gens qui faisaient des sciences de la Terre, qui ont démontré que le manteau devait convecter, c'est les physiciens. Ça arrive souvent en physique, en science, qu'il y a une chose un peu inverse par rapport à la démarche, on va dire, de l'inspection, les observations, les hypothèses, les modèles, les expériences pour confirmer. Souvent, il y a des hypothèses qui sortent de pas grand-chose, et la confirmation vient après. Par exemple, la relativité générale était sortie du cerveau d'Einstein, elle a été démontrée après. Et là, le mouvement des plaques, les géologues ne voulaient pas le savoir. Donc on va se poser la question, en ordre historique, quel est le nombre de relais du manteau. Et s'il est supérieur à 2000, ça doit convecter. Alors si on le trouve inférieur à 2000, on sera mal, parce que nous, on sait que ça bouge. Donc, il faut le faire, et pour trouver le nombre de relais du manteau, là j'ai mis des morceaux de manteau, il faut trouver G, T, alpha, kappa, mu et delta T. Alors G, c'est la gravité, vous n'aurez aucun problème si je vous dis que c'est voisin de 10 mètres par seconde carré, 9,81 exactement, ça vous va. D, c'est la taille du manteau, 2900 km, ça vous va? On sait ça depuis Gutenberg, hein, ça fait très longtemps. Alpha, c'est le coefficient de dilatation thermique du manteau. Alors ça se mesure très facilement au laboratoire. En fait, une petite carotte, un petit tube en péridotite, vous le chauffez, vous regardez la façon dont ça vient. Nous, en secondes, on mesurait le coefficient de dilatation thermique de métaux, pas de péridotite. Vous preniez des barres métalliques que vous chauffiez, vous mesuriez avec un pied à coulisse très précis, comme ça. Alors kappa, c'est plus difficile à mesurer, c'est la conductivité des roches. La diffusivité thermique, exactement. Des élèves pourraient le faire dans un laboratoire physique bien équipé. Pas forcément en lycée, mais je suis sûr qu'en prépa agrég, il y a des manips mesurer la conductivité thermique de tel ou tel élément. Donc ça, c'est facile à faire. Ça, c'est évident, ça, c'est facile à faire. Ça, c'est plus dur. Mu et delta T, c'est quelle est la viscosité du manteau, quel est l'écart de température entre le haut et le bas. Alors, quelle est la viscosité du manteau terrestre? Alors là, c'est une image d'un glacier, comme j'ai dit, pour vous rappeler que les solides sont visqueux et qu'ils peuvent donc se déformer. Alors, il y a deux façons, on va dire, de mesurer la viscosité du manteau. On peut faire des expériences, mais alors là, c'est très difficile. Il faut prendre des cristaux d'olivine, de pyroxène, ou de la péridotite, ou des monocristaux, mettre ça dans des hautes pressions, hautes températures, parce que rapidement, dès quelques kilomètres de profondeur, le manteau, il n'est pas comme les péridotites que je vous ai montré. Un péridotite comme ça, c'est froid, vous pouvez la tenir. La péridotite du manteau, elle est chaude et sous pression. Faire des expériences de déformation à haute pression, haute température, pour voir la déformabilité du manteau, ça se fait, mais c'est pas facile. C'est même très difficile. Alors ça se fait assez bien sur des cristaux isolés. Donc, prenez un cristal d'olivine, une presse, etc. Si vous voulez une roche polycristalline, quelqu'un d'une péridotite, donc, quels sont les cristaux principaux dans une péridotite? La dame du premier rang, là. Ouh, il n'y a qu'une dame au premier rang. Une péridotite, c'est fait de quoi comme minéraux? Parle plus fort, olivine, c'est le plus abondant. J'en veux deux, trois autres. J'entends pas. Alors la voisine derrière, quels sont les minéraux principaux d'une péridotite de base? Vous en avez vu la semaine dernière sur le terrain. Il n'y a pas quelques pyroxènes? Et dans les lherzolites, il y a même des orthos et des clinaux. Puis il y en a un troisième dans les péridotites qu'on ramasse sur le terrain. Un quatrième, donc olivine, ortho, clino, pyroxène. Le quatrième qu'on ramasse sur le terrain. Puis vous avez dû voir, c'est noir. C'est le spinel. Donc si vous prenez un assemblage de minéraux, c'est comme dans une chaîne, il y a des maillons faibles. Hein. Donc c'est très difficile de mesurer la résistance à la déformation d'un solide polycristallin. Alors quand c'est à la température ambiante, c'est facile, mais si vous vous mettez à 2000 degrés, je ne sais pas combien de millions d'atmosphères, il faut faire ça en enclume à diamant, c'est tout petit, faire un solide polycristallin tout petit. Bref, c'est pas facile, les expériences. Il y a des gens qui le font, même ici. Ici, non, c'est pas de ce côté-là, mais dans le couloir d'à côté, vous avez une pièce avec une lumière qui dit qu'il faut rentrer ou pas rentrer. Dans le temps, on faisait des expériences pour déformer des cristaux, monocristaux en l'occurrence. On peut utiliser, ça marche bien mieux, c'est plus facile, et pour des naturalistes comme nous, c'est mieux, ce qu'on appelle le rebond post-glaciaire. Vous savez que la Terre s'est faite d'une lithosphère rigide et d'une asthénosphère visqueuse. On va postuler ça, vous le savez. Imaginez qu'il y a 20 000 ans, Dieu, dans son infinie sagesse, fasse une variation climatique et mette beaucoup de glace sur la Scandinavie et le Canada, par exemple. Vous avez donc 3 à 4 km de glace. C'est lourd, 3 à 4 km de glace. Et ça va faire fléchir la lithosphère et la faire descendre. Et la sténosphère visqueuse, elle va partir sur les côtés. Depuis, entre 18 000 et 12 000 ans, les glaciers fondent. Donc ce qui était descendu va avoir tendance à remonter. C'est évident. Alors c'est comme si vous avez une péniche, vous mettez une péniche sur le Rhône, vous mettez des graviers dans la péniche s'enfonce. Vous videz les graviers, la péniche remonte. Et c'est instantané. Si la péniche, au lieu de la mettre sur le Rhône, vous la mettez dans un grand pot de cancoyote. Vous connaissez la cancoyote? C'est un fromage du Jura, c'est pas loin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je l'aime bien, qui est très visqueux. Alors on va dire du miel, un miel. Prenez une péniche qui est sur du miel. Vous chargez la péniche, ça va s'enfoncer, mais avec du retard, parce que le miel est visqueux. Vous déchargez la péniche, elle va remonter, mais avec du retard. Et c'est ce qui se passe quand on a déchargé il y a 15 000 ans le Canada ou la Scandinavie. Ben, ça remonte, mais avec du retard. Si c'était liquide, ça remonterait tout de suite. Mais comme ce n'est pas liquide, ça remonte avec du retard. Et cette remontée de la Scandinavie et du Canada est connue depuis toujours. Les Finlandais, les vieux Finlandais se rappellent la mer qui recule. Là, vous avez des photos prises en Scandinavie, vous avez des plages. En fait, le continent monte, et une plage qui est une plage, eh bien, un siècle plus tard, le continent est monté d'un mètre, et vous avez des plages fossiles que vous trouvez comme ça. Les vieux Finlandais se rappellent cette mer qui recule. Il y a même un proverbe local qui dit que là où... ça se voit bien quand la côte est plate. Évidemment, si la falaise est verticale. Mais quand vous avez la côte plate, si le continent monte d'un mètre, la mer recule énormément. Il y a un proverbe finnois, on va dire, que là où le grand-père attachait sa barque, le petit-fils plante ses choux. Le niveau de la mer au fin fond du golfe de Botnie, donc à la frontière suédo-finno-suédoise, le niveau de la mer baisse d'un mètre par siècle. Un mètre par siècle, ça se voit. Parce que tous les trois siècles, il faut refaire le port à un autre endroit. Si vous êtes pêcheur, c'est terrible. Alors voilà d'autres plages soulevées en Scandinavie. Si vous n'en avez pas en Scandinavie, et si vous cherchez, vous allez sur Google Earth, là c'est au Canada, vous avez des plages soulevées au Canada. Toutes ces photos sont sur planète Terre. Beaucoup de photos que je vous montre sont sur planète Terre. Si vous savez les demander le jour J, vous les aurez. Le problème, c'est savoir les demander. Alors, vous constatez bien que la vitesse de la remontée, la descente, ça s'est fait il y a longtemps, mais la remontée, elle est actuelle. La vitesse de la remontée, et on sait que c'est à peu près 10 000 ans après la fin des glaciers, dépend de la viscosité de la sténosphère. Et avec les plages soulevées, on sait que ça c'est le zéro actuel, ça c'est le zéro, je dis n'importe quoi, il y a 500 ans, le zéro il y a 2000 ans, le zéro il y a 3000 ans, le zéro il y a 4000 ans. Parce que là-dedans, on trouve par exemple des morceaux de bois. Alors on peut trouver des objets archéologiques, hein, déjà. Et avant les objets archéologiques, par exemple une pièce, alors peut-être pas une pièce viking quelconque, ou sinon, si on trouve des morceaux de bois, on les date au carbone 14. Et si c'est du bois flotté, on dit ben, la mer a déposé du bois flotté ici. Donc on sait dater ces plages par les méthodes usuelles de la radiochronologie, et on peut voir la façon dont, la vitesse à laquelle ça remonte. Et c'est là que ça remonte le plus vite, en Scandinavie, là que ça remonte moins, et on sait voir la forme de la remontée. On connaît avec des arguments géologiques la forme, là où il y avait des glaciers, là où il n'y en avait pas, et on voit là où ça remonte et là où ça ne remonte pas. Donc avec tout ça, on met ces valeurs, essentiellement la vitesse de remontée, dans les équations de la mécanique de solide, que je ne vous ai pas marqué ici, mais il y a des équations, et on trouve la viscosité. C'est entre 10 puissance 18 et 10 puissance 20 pascal seconde. C'est l'unité internationale de la viscosité. C'est pas pascal par seconde, c'est pascal seconde. Alors pour que vous vous rendez bien compte, là c'est pareil, c'est un vieux transparent que j'ai mis. Quelques valeurs de la viscosité, parce que 10 puissance 20 pascal seconde, on ne se rend pas compte ce que c'est. Alors dans le temps, l'unité ancienne c'était la poise. Et le pascal seconde, c'est égal à 10 poises. Si on parle en système international, on va prendre de pascal seconde. Quelques valeurs, l'eau, à 20 degrés, l'eau dans l'aquarium, là, c'est 10-3 pascal seconde, donc c'est pas beaucoup. L'huile d'olive à 20 degrés, c'est 1 pascal seconde. Le basalte à 1100 degrés, hein, c'est joli le basalte à 1100 degrés, ça coule vite à Hawaï et à La Réunion, c'est 400 pascal seconde. La glace à 0 degré, un glaçon croqué sous la dent, c'est 10 puissance 11 pascal seconde. Et là, comme je m'adressais à un grand public à l'époque, j'avais mis les zéros pour que les gens voient ce que c'est. Je pense que vous savez ce que c'est que les uns. La glace à moins 20 degrés, par exemple, la glace à 0 degré, c'est le glacier des Bossons pendant l'été. La glace à moins 20 degrés, c'est l'intérieur de la calotte antarctique. C'est 10 puissance 13 pascal seconde. Les roches froides, par exemple un granit, une péridotite froide, 10 puissance 23 pascal seconde. La lithosphère, c'est 10 puissance 23 à 24. Et la sténosphère, ce qu'on vient de voir, là, c'est 10 puissance 19 à 20. Quant au noyau externe, ce n'est pas le sujet, mais c'est 10 moins 2 pascal seconde. C'est donc intermédiaire entre l'huile d'olive et l'eau. C'est vraiment du liquide que vous pouvez tourner à la petite cuillère, si vous avez une petite cuillère qui ne fondrait pas à cette température-là. En quoi vous prendriez une petite cuillère pour touiller le noyau? Si vous voulez faire une petite cuillère pour touiller le noyau, vous la prendriez en quoi? Ben, quelque chose qui est solide à cette température-là, par exemple une péridotite. Au niveau de l'interface noyau-manteau, la péridotite, elle est solide. Sinon, vous prenez des métaux qui résistent à haute température, comme le tungstène. Une petite cuillère en péridotite, ce serait pas mal. Donc voilà ce que c'est que la viscosité. Alors attention, surtout pour les géologues, si vous avez des TP là-dessus, il y a deux sortes de viscosité, la viscosité normale, puis ce qu'on appelle la viscosité dynamique, ce qu'on appelle la viscosité cinématique. C'est la même chose, mais ça se mesure en mètres carrés par seconde, et la valeur de la viscosité cinématique par rapport à la viscosité dynamique, c'est 10 puissance 3 fois ρ plus faible. Ρ, en gros, c'est 3000 kg par mètre cube, et 10 puissance 3 fois, ça fait donc, en gros, 10 puissance 6, un rapport 3 10 puissance 6. Donc si on vous donne dans un TP un exercice de la viscosité, faites attention à savoir si c'est de la dynamique normale ou de la cinématique. C'est une source d'erreur, oui.
Et donc, dans la formule du nombre
de Rayleigh, c'est la normale. Je crois, enfin, à vérifier, mais tu me poses une colle, là. Non, non, c'est la viscosité normale. Mais de toute façon, tu passes de l'une à l'autre, c'est... Voilà. Alors, une parenthèse. Toujours, la Scandinavie et le Canada m'étonnerait que beaucoup d'entre vous y soient nommés. Bon, il y a un lycée français à Montréal, il y a un lycée français à Helsinki, mais, bon... serait peut-être plus probablement nommé en fin de carrière en Bretagne ou dans le Nord. Pourquoi, à votre avis, on va donc rester français, les Bretons, donc pas des cons, encore que, de l'âge du bronze, donc 4500 avant aujourd'hui, construisaient leurs mégalithes, quand on dit qu'ils ne sont pas des cons, c'est qu'on ne sait même pas à quoi ça sert, mais enfin bon, ils les construisaient, en zone de balancement des marées. Là, c'est un mégalithe, marée basse, marée haute. Pourquoi est-ce qu'ils construisaient leurs mégalithes en zone de balancement des marées? Ben, peut-être bien qu'à l'époque, ce n'était pas la zone de balancement des marées. Et que depuis, la Bretagne s'est enfoncée et que la mer a atteint ces trucs qui n'étaient pas bâtis dans la zone de balancement des marées. Si vous êtes nommé dans le Nord, dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer, c'est plus probable, la banlieue de Boulogne-sur-Mer et des banlieues cracra. Vous avez des belles plages, et vous voyez dans les plages des arbres. Et certains arbres sont en position de vie, c'est-à-dire vous avez le tronc et les racines en place. Ce n'est pas un arbre flotté. C'est des arbres qui ont poussé sur cette plage. Alors cette plage, là il y a des chênes, des bouleaux, etc. Est-ce que les chênes, les bouleaux, les aulnes, ça pousse sur les plages? Non, ça n'aime pas bien l'eau salée. Alors cette souche a 4000 ans, et si elle est là maintenant, c'est que soit la mer monte, soit le continent s'enfonce. Or, depuis 4 à 5 000 ans, la mer ne monte presque plus. Les glaciers sont quasiment, ils ont tous fondu. Donc, c'est le nord de la France, la Bretagne, qui s'enfonce. Pourquoi le nord de la France et la Bretagne s'enfoncent-elles? Il n'y a pas que le nord et la Bretagne qui s'enfoncent. Il y a la Hollande, et c'est plus grave encore. Parce que l'Hollande, c'est plat, 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 plat. Et ça s'enfonce. Par exemple, en 14... Alors, comme ça s'enfonce, ils mettent des petites digues. Maintenant, c'est des grosses. Et il y a des cordons dunaires. Mais si vous avez une grosse tempête pendant une marée haute, le cordon dunaire ne peut plus suffire. Ils avaient des inondations catastrophiques. Par exemple, l'inondation de la Sainte-Élisabeth, que vous avez représentée sur ce tableau. Toujours essayer de faire de l'art. 1421. Il y a de 2000 à 10 000 morts, hein, les chroniques sont pas très bien. Vous voyez la mer qui envahit ce village. Alors, les inondations se succèdent aux Pays-Bas. En 1212, 60 000 morts. En 1362, 30 000 morts. 1421, 2000 à 10 000 morts. La dernière grosse inondation, 1953, j'avais un an, je ne m'en rappelle pas trop. Quand même 2551 morts. Et c'est depuis les inondations de 1953 que les Hollandais ont fait ce qu'ils appellent le plan Delta. Delta, j'ai entendu, Delta de l'Escaut, de la Meuse et du Rhin. Pas comme le variant, hein, c'est le Delta. Pour empêcher que, parce que, inexorablement, la Hollande s'enfonce. Qu'est-ce qui s'enfonce? Sur une carte de l'Europe il y a 20 000 ans, la Bretagne la Boulogne-sur-Mer et la Hollande. Et on pourrait faire ça partout. Ce qui s'enfonce, c'est en périphérie de la calotte glaciaire. Ici, ça remonte d'un mètre par siècle. Et là, ça s'enfonce. Sur une carte d'Angleterre, où il y avait une calotte glaciaire sur l'Angleterre, hein, très épaisse comme ça. Là, il n'y avait pas beaucoup de glaciers, c'était plus de la mer gelée qu'une calotte, mais là, vous aviez une belle calotte. Cette région-là, actuellement, monte, comme le fin fond de la Scandinavie, et la région colorée en rouge descend, avec en particulier Boulogne-sur-Mer et la Bretagne. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une plaque lithosphérique dessous la sténosphère. Vous appuyez, vous pouvez essayer, hein, plaque. Si vous appuyez, ça fait remonter les bords. Alors si la plaque est infinie, les bords ne vont pas remonter au ciel, ça fait une ondulation, hein, une sinusoïde amortie. Mais là, ça s'enfonce, et là, ça remonte. Eh bien, si vous arrêtez d'appuyer, ce qui s'était enfoncé remonte, et ce qui avait remonté descend. C'est ce qui arrive à la Bretagne et à la Hollande, c'est ce qui arrive à la Scandinavie. Et grâce à la vitesse de remontée, on peut calculer la viscosité du manteau. Autre question? Pas de question? Pour l'instant, j'en ai eu une. Alors, autre question que je me pose, maintenant qu'on connaît la viscosité du manteau, quel est l'écart de température entre le haut et le bas du manteau? Sachant qu'on n'a jamais pu mesurer la température, le plus profond forage qu'on ait fait, c'est 13 km. Et c'était dans la croûte continentale de la presqu'île de Kola, donc au nord de la Russie. C'était un moment, les Russes, soviétiques à l'époque, voulaient faire mieux que les Américains. C'était le concours de Sukhora la plus grosse. Les Américains sont arrivés sur les premiers sur la Lune, et les Russes, c'est ceux qui ont fait le trou le plus profond. 13 km, c'est quand même pas mal. Alors, comment connaître la température dans le manteau, superficiel, moyen, profond? Et bien pour ça, on utilise les discontinuités sismiques et les changements de phase de l'olivine et des minéraux lumineux. Là, vous avez, tout le monde connaît ce diagramme, et si vous ne le connaissez pas, vous aurez le temps de le revoir. En fonction de la profondeur, la vitesse des ondes, ici c'est les ondes S, en kilomètres par seconde. Au tout début du XXe siècle, on a mis en évidence, M. Mohorovicic a mis en évidence la limite croûte-manteau. Et tout en bas, c'est hors de ce diagramme, M. Gutenberg a mis en évidence la limite noyau-manteau. Et dans les années qui ont suivi ces découvertes, on a peaufiné les choses et on a pu établir un profil de vitesse en fonction de la profondeur. Et on s'est rendu compte qu'en moyenne, entre 100 et 200 km, il y avait une zone où les ondes S, en l'occurrence ici, étaient ralenties. Pas beaucoup, mais un petit peu. On appelle ça en anglais la low velocity zone, LVZ, zone à faible vitesse en français. Et puis ça se remet à augmenter, il y a une petite augmentation par là, vers 420 km. C'est la dernière qui a été découverte. Et il y en a une autre ici, vers 660 km, qui a été découverte avant celle-là, mais après celle-là. Comment expliquer ces variations de vitesse? Alors ça c'est facile, c'est pas le même produit. La croûte continentale, puisqu'ici c'est la croûte continentale, c'est granit, gneiss et choses comme ça. La lithosphère mantélique, c'est péridotite, c'est pas le même matériau, les ondes sismiques vont pas à la même vitesse. Ensuite, d'abord, les limites sont assez progressives, sauf peut-être celle-là qui est assez brutale. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est les changements de phase du minéral olivine, qui est le principal minéral du manteau. Le seul connu par les gens du premier et deuxième rang. Qu'est-ce qu'un changement de phase? Est-ce que quelqu'un aurait ici une bague en diamant? On peut faire l'expérience tout de suite. Prends la bague en diamant, on la met dans la flamme d'un briquet, et rapidement, le diamant va devenir graphite quand on le chauffe. C'est assez irréversible dans les conditions standards. Et puis en plus, si on fait ça à la flamme, le diamant brûle. Donc il faudrait faire ça en atmosphère d'azote. Donc, ça, vous avez un diagramme température entre 0 et 6000 degrés. Et pression. Alors, la pression, c'est en atmosphère. Je sais pas. L'atmosphère, c'est le bar, c'est à peu près. Vous avez une idée de la valeur avec des unités pour élève. Pression, ça se mesure en newton. Mais une atmosphère, ça fait qu'on... Dans le temps, les forces, c'était des kilogrammes force, on disait kilos. La pression atmosphérique, ça fait combien de kilos? De newton, ça ferait 10 fois plus. Par centimètre carré, vous avez une idée de l'ordre de grandeur, c'est à peu près un bar. Hein. Une idée de l'ordre de grandeur de la pression atmosphérique. C'est bien que des naturalistes connaissent des ordres de grandeur. Ben, la pression atmosphérique, c'est à peu près 1 kg, c'est-à-dire 10 newtons par centimètre carré. C'est important. Avec la peau, les alvéoles pulmonaires, je fais 2 à 3 mètres carrés de surface. 2 à 3 mètres carrés, ça fait... 1 mètre carré, c'est combien de centimètres? C'est 10 puissance 6 centimètres. Ça fait 10 puissance 6 kilos. Vous avez la force qui m'écrase. Et hélas, ça ne m'aplatit pas. Beaucoup de gens disent que la pression, ça aplatit. La pression n'aplatit pas si elle est isotrope. Et là, je suis aplati par tous les côtés et ça ne m'aplatit pas. 1 kg par centimètre carré. Énorme. Et l'atmosphère, c'est à peu près 10 mètres d'eau. Quand vous faites de la plongée, quand vous nagez à cheval, vous avez une atmosphère, vous enfoncez de 10 mètres, vous avez 2 atmosphères. 10 mètres de plus, vous avez 3 atmosphères. Et à 1000 mètres, ben, vous avez 100 atmosphères. Enfin, 101. Donc, le diamant, le forme stable du carbone à la base, dans les conditions standards, quand vous faites brûler une bougie, que vous mettez une assiette dessus, le noir de fumée, le pot d'échappement mal réglé du diesel, c'est de la poussière de graphite. Mais si vous faites rouler votre diesel mal réglé à une pression de, alors c'est par 10 000, on va dire, de 20 000 atmosphères, eh ben, le noir de fumée sera du brillant de fumée, puisque ce sera du diamant. Alors, c'est parce que l'état cristallin change, c'est la même composition chimique, c'est du carbone. Ça, c'est le réseau cristallin du graphite. Ça, c'est le réseau cristallin du diamant. Celui-là est beaucoup plus dense, et quand vous augmentez la pression, vous favorisez la fabrication de minéral dense. Plus utile en géologie, c'est par exemple un minéral qu'on appelle les silicates, enfin, trois minéraux qu'on appelle les silicates d'alumine, dont j'ai écrit la formule, Al2SiO5. Il y en a trois. Pareil, température, pression. Il y a le distène, l'andalousite et la sillimanite. Et ça, vous en trouvez tous les jours. Enfin, tous les jours. Si vous regardez là où vous marchez. Et un jour, j'ai eu un espèce d'orgasme géologique. C'est assez rare, mais c'est important d'avoir des orgasmes géologiques. Surtout que j'étais en train de pisser. J'étais en train de pisser. Et à un moment, je vois ça. J'ai quasiment tout lâché, j'en ai mis des taches partout. Je voyais le caillou maintenant, je l'ai nettoyé, mais dans la salle de collection. Ça fait presque 2 cm de long, ça, donc je le voyais, du distène bleu en train de devenir de l'andalousite rose, sur le même caillou. Quand vous voyez ça, vous lâchez votre bite et vous pissez partout. Donc c'est ce qui, ici, pris en flagrant délit, ça s'arrêtait là, du distène bleu qui est en train de devenir andalousite rose. C'est un changement de phase qui s'est arrêté au bon moment. Ça, j'étais en vacances dans les morts. Hein, donc, je sais pas. S'il y en a qui sont déjà allés, par exemple, vers Saint-Tropez, il y en a plein. Enfin, voilà, je ne gère pas, mais enfin, il y en a. Un troisième diagramme de phase classique, c'est les minéraux alumineux du manteau. Tout à l'heure, j'ai demandé à deux charmantes jeunes filles qu'est-ce qu'il y avait comme minéraux dans le manteau à la surface. Elles m'ont dit spontanément et vigoureusement olivine, clinopyroxène, orthopyroxène et spinel. Le spinel a comme formule le minéral spinel MgAl2O4. Ce n'est pas un silicate, hein, c'est un oxyde mixte d'aluminium et de magnésium. Prenez Al2O3, l'oxyde d'aluminium, MgO, l'oxyde de magnésium, et ça fait un spinel qu'on appelle la picotite, je crois, je ne sais plus le nom de ce spinel. C'est un spinel. Qui a une certaine forme en la masse, une certaine couleur, etc. Ça, c'est là-dedans, dans le manteau, il y a de l'aluminium, c'est là-dedans que se trouve l'aluminium des nodules de péridotite que vous avez vu au bord du lac. Vous avez vu des nodules de péridotite au bord du lac. Eh bien, c'est le minéral alumineux du manteau au bord du lac du Salagou. Si vous prenez cette péridotite et que vous la décomprimiez, vous attendez suffisamment longtemps pour que ça fin, l'aluminium quitterait le spinel pour aller dans un plagioclase. Le manteau, quand la pression est inférieure à 20 km de profondeur, c'est-à-dire le manteau sous l'océan, par exemple, l'aluminium n'est pas dans un spinel, mais dans un plagioclase. Le manteau sous les continents, la profondeur est supérieure à 20 km, le manteau est dans le spinel. Et si vous prenez ce spinel et que vous le, par exemple, que vous le fassiez subducter, il y a une autre action de changement de phase, l'aluminium quitte le spinel et devient grenat. Donc les minéraux alumineux du manteau, c'est soit du plagioclase, à basse pression, soit du spinel, moyenne pression, soit du grenat, haute pression. Et là, vous avez une lame mince de péridotite à spinel. Là, vous avez une lame mince de péridotite. Il y avait du spinel, mais comme le manteau était en cours de subduction, il est en train de se transformer en grenat. Et vous avez le spinel à cœur qui n'a pas encore fini de se transformer et du grenat autour. Et là, alors là, c'est un caillou que vous verrez quand vous... Alors sur le terrain, on ne voit pas les lames minces, mais on voit les cailloux. Vous verrez ça au mois de mars ou au mois d'avril, quand vous ferez les excursions dans les monts du Lyonnais. Et plus profond, vous avez des péridotites où il n'y a que des grenats. Donc quand vous avez un nodule de péridotite, vous pouvez savoir à quelle profondeur ces cristaux se sont équilibrés. Bien sûr, quand vous le ramassez, il est à la pression atmosphérique, donc il est là. On ne devrait avoir que des péridotites à plagioclase, forcément. Mais les réactions métamorphiques sont en général suffisamment lentes qu'on ait encore des péridotites à spinel ou voire même à grenat. Donc on a des minéraux avec les différentes phases de minéraux, en particulier les enclaves du manteau. On peut, je n'ai donné que trois exemples, un diamant, silicate d'alumine et phase alumineuse, la pression et ou la température jusqu'à une certaine profondeur, c'est l'échantillon les plus profonds qu'on ait. Les plus profonds qu'on ait, c'est quand les phénomènes géologiques, l'érosion, les explosions volcaniques, ou que sais-je encore, ont fait remonter des cailloux profonds. Alors les cailloux les plus profonds qu'on ait, les cailloux, je ne parle pas des inclusions dans les diamants, mais les cailloux, c'est 400 km. C'est un volcanisme très particulier, les kimberlites, qui font remonter très vite du manteau de plus de 400 km de profondeur. C'est là-dedans qu'on trouve les diamants, d'ailleurs. Donc avec tout ça, on sait maintenant que les discontinuités qu'on voit, celle-là et celle-là, sont dues à des changements de phase. Du minéral olivine, qui est le principal minéral du manteau, qui est un silicate de fer et de magnésium, FeMg 2SiO4, ça c'est l'olivine normale. Alors souvent on dit, on n'a pas tort, que l'olivine est un ferromagnésien. Oui, il y a du fer et du magnésium. Mais on prend de lui, là. Quel est le pourcentage dans une olivine classique entre le fer et le magnésium? Qui domine? C'est moite-moite. L'olivine domine. Justement, la composition de l'olivine, oui, dans l'olivine. Qu'est-ce qui domine? Le magnésium, le fer ou c'est moite-moite?
Je dirais moite-moite.
Eh ben non. En gros, l'olivine ordinaire, c'est 90% de magnésium pour 10% de fer. Donc, on dit que c'est un ferromagnésien, c'est pas faux, mais on devrait dire ferromagnésien. Il y a beaucoup plus de magnésium que de fer. Ça, c'est l'olivine normale, qu'on appelle alpha, qui a une certaine structure cristalline. Mais en général, on ne dit pas olivine alpha, on l'appelle l'olivine ordinaire, l'olivine. Passer une pression qui fait 400 km, ça fait profondeur, il y a un changement de phase. Et ça passe à une autre olivine, qui a exactement la même formule, qu'on appelle l'olivine bêta. Pas difficile à se rappeler. Si vous êtes géologue, vous vous rappelez les noms, on appelle la Watts-Deleuze. Là, il y a, vers 500 km, il y a un autre changement de phase, qu'on ne voit quasiment pas en sismique, mais on le voit expérimentalement. Ça fait ce qu'on appelle l'olivine gamma. Toujours la même formule, hein, FeMg2SiO4, qu'on appelle la ringwoodite. Les biologistes disent olivine alpha, olivine gamma, bêta et gamma. Les géologues peuvent dire Watts-Deleuze et ringwoodite. Alors, dans le temps, c'est dans les années 70. Hein. Ces minéraux-là, on ne les connaissait pas. Parce que, figurez-vous que la Société minéralogique internationale a décidé, il y a longtemps, qu'on donnait un nom à un minéral que si on l'avait trouvé dans la nature. Et l'olivine bêta, l'olivine gamma, on les faisait en synthèse, avec des presses, on savait les faire, mais on ne les avait jamais trouvées dans la nature. Donc ça n'avait pas de nom. Et puis, alors comment on appelait ces olivines sans nom? Il se trouvait que la structure cristallographique de ces olivines expérimentales, sans nom, était la même que la structure cristalline des spinels. Spinel qui n'est même pas un silicate, hein, c'est un oxyde mixte de magnésium et d'aluminium. Et on appelait ça l'olivine phase spinel, parce qu'il n'y avait pas de nom. Puis dans les années 70, on a trouvé des minéraux, alors on l'appelle avec des vrais noms. Et vous pourrez encore trouver dans des vieux livres, des vieux cours, donnés par des vieux profs, on parle sous l'olivine, il y a une phase spinelle. C'est que son cours est vraiment démodé. Et en dessous, vers 660 km, là il y a une augmentation de vitesse importante, parce qu'il y a un nouveau changement de phase, et l'olivine gamma devient un mélange qu'on appelle maintenant un mélange magnésio-wustite plus bridgmanite. On l'appelle bridgmanite parce que le 2 juin 2014, on en a trouvé. Avant, on appelait ça perovskite. Là encore, c'est comme si le perovskite, c'est un vrai minéral. C'est un titanate de calcium. Et il se trouve que la structure cristalline, la perovskite, qui est un titanate de calcium de mémoire, est la même que cette phase-là. Alors on appelait ça phase perovskite. Puis on oubliait phase perovskite, on disait perovskite. Mais on en a trouvé le 2 juin 2014, ça fait déjà 7 ans, et maintenant ça s'appelle bridgmanite. Donc quand vous avez des cours où on parle de perovskite et pas de bridgmanite, c'est que le monsieur n'a pas revu son cours depuis 7 ans, monsieur ou la dame. Ou ne se renseigne pas et répète sans se renseigner. C'est-à-dire qu'il ne se forme pas. J'espère que vous ne ferez jamais comme ça quand vous serez prof. Donc, on interprète ces variations de vitesse en changement de phase. Expérimentalement, alors j'ai gardé le mot perovskite et j'ai barré pour mettre bridgmanite. Hein, voilà. On peut expérimentalement bien tracer dans un diagramme température-pression les profondeurs et température de ces changements de phase. Par exemple, celui-là qui fait passer la ringwoodite à la bridgmanite plus magnésio-wustite, on sait que c'est à 670 km, c'est la sismique qui nous le dit. Donc on connaît la pression, à peu près 23 gigapascal. Et donc, puisque le changement de phase qui se fait à 23 gigapascal, 670 km, ça nous donne la température, ça fait à peu près 1830 degrés K, c'est-à-dire 1550 degrés Celsius. On sait qu'à 670 km de profondeur, profondeur où se fait ce changement de phase, puisque ce changement de phase se fait le long de cette droite, l'intersection de la droite de changement de phase et de l'isobare, 670 km, c'est 1550 degrés. Vous savez qu'à 660 km, 70 km de profondeur, sous le manteau normal, hein, pas forcément dans une zone de subduction ou une dorsale, il fait 1550 degrés. Donc si on résume les deux méthodes, les cailloux, avec des changements de phase et la sismique, ça, c'est l'augmentation de température. Alors là, vous avez la profondeur, là, vous avez la température. Là, c'est l'augmentation de température qu'on voit, disons, avec les forages, hein, c'est simplifié. Puis, vous avez différents types de cailloux qui viennent de plus ou moins profond. Le record de profondeur, c'est à peu près 400 km. Et puis, vous avez ici la température de 600 et quelques degrés, 1500 et quelques degrés, hein, c'est celle qu'on a vue là, 1550 degrés, qui est à 670 km de profondeur. Donc, la courbe qui donne la température dans le manteau, on va dire, supérieur, elle doit passer par le trait bleu épais, par chacun des points bleus, verts ici, et par là. Donc, a priori, la température dans le manteau supérieur, c'est ça. Rappelez-vous le modèle théorique d'une cellule de convection avec la couche limite thermique supérieure. Ça, c'est une courbe théorique ou expérimentale dans une casserole. Ça, c'est une courbe, je dirais, observée, indirectement certes, mais observée. Ah ouais, que ça ressemble. Donc, la meilleure définition, finalement, de la lithosphère, hein, grosso modo, Alors on dit que c'est là où la température, grosso modo, ce virage, il se prend de 1200 à 1400 degrés. On dit en général 1300 degrés. C'est vrai que c'est l'isotherme 1300 degrés. Mais on peut dire que c'est la couche limite thermique supérieure des cellules de convection du manteau. Alors pour des gamins de quatrième, peut-être pas. Mais pour un jury d'agrég, une fois que vous ayez tout démontré tout ça, on peut y aller. Biologiste comprendra peut-être pas, mais de toute façon, ils ne comprennent rien à la géologie. Alors, on vient de découvrir ça. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Parce que le manteau, il va jusqu'à 2900 km. Bon, on sait ça, pas beaucoup. Hein. Alors, il y a un autre changement de phase qu'on connaît bien. Une autre accélération de vitesse qu'on connaît bien, c'est dans le noyau, vers 5150 km. Le passage entre le noyau externe qui est liquide et le noyau interne qui est solide. Or, expérimentalement, c'est pas facile, mais on y arrive. On connaît la profondeur, donc on connaît la pression. C'est rho gh, g variant, en fonction de la profondeur, il faut intégrer tout, faire une intégrale, c'est plus compliqué que ça, mais on y arrive. Mesurer expérimentalement à quelle température se fait la fusion du fer, ou la solidification du fer, quand on est à cette pression-là. Et on trouve que c'est à peu près à 5000 degrés. Donc, à l'interface noyau externe, noyau interne, on est à peu près à 5000 degrés. Donc, la courbe de température entre le point 1 et le point 2, si c'était régulier, ça serait ça. Pourquoi pas? Au mieux, ça pourrait... Hop. Ça pourrait faire ça. Vous avez le droit à faire tout ce que vous voulez, sachant que la température augmente avec la profondeur, elle ne va pas se mettre à refroidir. Mais ça pourrait faire ça. Ça pourrait faire ça. Donc, cette courbe qui va de là à là, elle passe à 2900 km, quelque part ici. Ça peut être au milieu, ça peut être sur les bords. Donc, la température de la base du manteau, c'est entre 2000 et 5000 degrés. C'est vague. Bon, mais pour l'instant, on va s'en contenter. On connaît G. N'oublie pas qu'on cherche le nombre de relais. On connaît D, on connaît alpha, on connaît kappa, on connaît tout. Sachant que delta T, une grosse incertitude, 2000 à 5000. Mais si vous mettez ça... toutes les incertitudes dans le nombre de relais. Vous voyez que le nombre de relais du manteau, c'est entre 10 puissance 6 et 10 puissance 8. Au plus faible, c'est 10 puissance 6. Plus fort, c'est 10 puissance 8. C'est de toute façon supérieur à 2 10 puissance 3, qui est la valeur critique. Donc, le manteau de la Terre convecte. C'est QFT. Il ne peut pas ne pas convecter, à moins qu'on soit complètement trompé, dans nos estimations de viscosité, de température et tout ça. Et puisque maintenant on sait qu'il convecte, on se dit que ça c'est la courbe qui est bien connue. Puisqu'il convecte, il doit y avoir ce qu'on appelle le gradient adiabatique. Quand vous vous enfoncez, ça comprime, ça chauffe. Si vous remontez, ça décomprime, ça refroidit. On peut mesurer sans trop de problèmes expérimentalement ou calculer le gradient adiabatique dans de la péridotite solide, c'est 0,3 degrés par kilomètre. Donc, théoriquement, ça doit descendre comme ça. Là, c'est du fer liquide. On connaît la température, 5000 degrés. Ça doit convecter le noyau liquide. Est-ce que vous avez des preuves que le noyau liquide convecte, enfin bouge vite? Oui. Le champ magnétique terrestre, qui montre qu'il y a des mouvements rapides. Donc, expérimentalement ou théoriquement, on peut calculer le gradient adiabatique dans du fer liquide, c'est 0,5 degrés par kilomètre. Donc ici, ça doit faire ça. Ici, ça doit faire ça. Et puis ça ne se touche pas. Mais c'est génial que ça ne se touche pas. Rappelez-vous quand on fait de la théorie sur une convection à deux couches. Vous avez une couche limite thermique supérieure, une couche limite thermique inférieure, et là où les deux couches se touchent sans se mélanger, une couche limite intermédiaire. C'est exactement ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on est content. Alors ensuite, il y a des histoires dans le noyau, mais ça, j'en parlerai pas. Des questions ? Alors maintenant, on sait tout. Selon ce modèle, la lithosphère océanique correspond à la couche limite thermique supérieure. Ce modèle permet d'en calculer l'épaisseur. On sait, vous savez, que la lithosphère océanique naît au niveau d'une dorsale, puis elle s'en éloigne. Elle s'en éloigne, elle perd de la chaleur. Donc, la partie froide augmente d'épaisseur. C'est logique. Et alors, on peut faire des calculs, c'est de la physique de base. Si la partie dense s'épaissit, pour des raisons d'isostasie, ça doit s'enfoncer. Donc, on peut calculer l'épaisseur de la partie refroidie. N'oubliez pas que la lithosphère, c'est la partie refroidie avec un gradient fort du manteau, puis la croûte, évidemment. Alors que dessous, la température est subconstante, au gradient adiabatique près. Donc, ça, pour simplifier, c'est du manteau et la croûte froid, ça, c'est du manteau chaud. L'épaisseur de la partie froide augmente avec l'éloignement de la dorsale, si c'est une couche limite thermique, et s'il y a de la convection avec une panache ascendant ici, c'est l'hypothèse, puisque le manteau convecte, on a envie de mettre le panache ascendant ici, mais quand même pas le mettre ailleurs. Alors on fait des calculs, par exemple pour la profondeur qui dépend de l'épaisseur de la partie froide et dense. Quand on fait des calculs, voilà ce que devrait être la profondeur théorique du fond de la mer en fonction de la distance à la dorsale, ou de l'âge, ce qui revient au même. C'est le trait, et les observations, c'est les points. Ça colle pas si mal que ça. Si les économistes faisaient des prévisions aussi bonnes que ça, eh ben on serait pas dans la merde où on est. Alors là, c'est pour le flux de chaleur. A priori, ici, il y a une grosse couche de froid. Là, il n'y a pas de grosse couche de froid, donc il doit sortir plus de chaleur ici que là. La courbe théorique, c'est le trait. Les données observationnelles, c'est les points avec les barres d'erreur. Il y a des grosses barres d'erreur pour les flux thermiques, mais ça colle aussi. Donc, a priori, ce modèle, le manteau convecte, les dorsales, c'est là où ça remonte. Puis, ça dérive, ça se refroidit et ça s'épaissit, ça colle avec les observations. On est content. Résumons donc avant d'aller plus loin. Le manteau doit théoriquement convecter. La lithosphère océanique est la couche limite thermique supérieure du système convectif. Le manteau représente 69% de la masse de la Terre et 85% du volume. Grosso modo, si un jour vous rencontrez un martien dans la rue, et qui vous demande de résumer en deux, trois mots qu'est-ce que c'est que votre planète, vous dites une boule de péridotite. Vous allez résumer la Terre. En volume, vous allez résumer 85% de la Terre. Le reste. Donc ce manteau, a priori, produit la majorité de l'énergie de la Terre. C'est à la fois la radioactivité et ce qu'on appelle le refroidissement séculaire. Le noyau, avec ses 30% de la masse, produit encore moins d'énergie, moins que 30%, parce que a priori, et vous verrez ça quand vous ferez le cours sur la thermique, l'uranium, le thorium et le potassium sont beaucoup plus à l'aise dans les silicates que dans le fer. Donc quand l'interface est faite, uranium, thorium et potassium, qui sont appelés sidérophobes, c'est un mot que j'ai inventé, sidérophile ça existe, c'est qui aime le fer, sidérophobe ça n'existe pas en géologie, c'est moi qui l'ai inventé, j'ai mis des guillemets. Donc ce qui chauffe le manteau, c'est pas tellement la radioactivité, a priori, c'est ce qu'on a, la cristallisation de la graine. Vous verrez ça, le thorium. Donc a priori, théoriquement, dans le manteau terrestre, puisque c'est chauffé par la masse, la radioactivité qui est dans le manteau, théoriquement, rappelez-vous, il doit y avoir descente active et remontée passive. Puisque le noyau produit beaucoup moins de chaleur que les 30% de la masse qui lui sont imparties. Parce que, a priori, le noyau contient beaucoup moins d'uranium, thorium et potassium. Donc, théoriquement, le manteau terrestre, il doit avoir descente active et remontée passive. On vous l'a certainement déjà dit que c'était ça. Mais souvent, on ne dit pas d'où ça sort, on dit c'est comme ça. Souvent, dans l'éducation nationale, c'est un enseignement coranique, comme chez les talibans. C'est comme ça. Les femmes doivent quitter l'amphi parce que les femmes n'ont pas à s'instruire. Pourquoi? C'est comme ça. Parce que jamais dans le Coran, il est marqué que les femmes ne doivent pas aller à l'université. Il n'y avait pas d'université à l'époque. Alors, il y a quand même un peu d'énergie qui est produite dans le noyau, qui peut peut-être entraîner une remontée active. Elle sera limitée. parce que largement moins de 30% de l'énergie, ça compte pas beaucoup. Ça, c'est la théorie. Allons voir si c'est vrai. Alors, pour voir si c'est vrai, si ce que je viens de vous dire est vrai, les plaques sont beaucoup plus mises en mouvement par les subductions qui tirent que par les dorsales qui poussent. Rappelez-vous les trains, hein. J'ai mis un train avec une locomotive devant et un train avec une locomotive devant et une locomotive derrière. Je n'ai pas mis de train avec qu'une locomotive derrière qui poussait. Ça, c'est peu vraisemblable. Quand on m'a appris la technique des plaques, hein, j'ai passé la grecque en 77, c'était le début de la technique des plaques dans l'enseignement, c'était les dorsales qui poussaient. C'était évident, il n'y avait pas d'autre chose. On va voir que c'est absurde. C'est pas parce que c'est absurde qu'on ne le dit pas. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que la Terre était plate. Il y a même encore des gens qui le disent, ça. Alors, pour voir si c'est vrai, il y a plein de méthodes. Par exemple, la tomographie sismique. Tomographie sismique est à la sismique, ce qu'un scanner est à une radio médicale. Une radio médicale, c'est une radio, ça, c'est un profil sismique. La tomographie, si vous voyez ça dans les trois dimensions de l'espace, que ce soit la tomographie médicale ou la tomographie sismique. Alors, le principe est tout simple. Vous avez la Terre. J'ai mis ici deux tremblements de terre, un là et un là. Ici, vous avez quatre stations sismiques. Je prends les tremblements de terre qui partent d'ici. Donc, il y a quatre raies sismiques qui sont enregistrées, le 1, le 2, le 3 et le 4. Là, il y a un autre tremblement de terre. Il y a quatre raies sismiques qui sont enregistrées par les stations, le 5, le 6, le 7, le 8, le 6, le 7 et le 8. Eh bien, par rapport à la normale, il se trouve que les ondes 1 et 5 arrivent avec une vitesse anormale par rapport aux autres. La vitesse moyenne, on la connaît, parce que je vous ai montré le profil, donc il suffit d'intégrer, on dit un sisme qui est à tant de kilomètres, ça doit arriver à tant de secondes ou de minutes après le tremblement de terre. Eh bien, dans ce dessin-là, il y a deux trajets, le 5 et le 1, où ça arrive, par exemple, en avance, par rapport à la norme. La solution la plus simple, c'est de dire que sur le trajet 1 et 5, et pas sur le 2, 3, 4, 5, 6, il y a quelque chose qui accélère les ondes, si elles arrivent avec de l'avance. La solution la plus simple, c'est de dire qu'il y a une seule chose qui est à l'intersection des deux. Il pourrait y en avoir une là et une là, mais la solution la plus simple, principe de parcimonie, c'est d'en faire qu'une. Et puis alors, c'est pas avec deux tremblements de terre et quatre stations, c'est avec des milliers de tremblements de terre et des milliers de stations que vous faites ça. Et vous pouvez trouver la position d'anomalie. Alors là, c'est en profondeur et là, c'est en surface. C'est comme ça qu'on fait. Ce n'est faisable que depuis qu'il y a un réseau sismique mondial et surtout des ordinateurs capables de tout comparer, de tout calculer. Donc la tomographie sismique, quand j'étais à votre place, elle n'existait quasiment pas, elle débutait à peine. Alors, le résultat de la tomographie sismique, je vous en donne un, là, c'est en coupe entre ici et là. Alors, le code de couleur, c'est une anomalie de vitesse. C'est ni une vitesse absolue, c'est pas 8 km par seconde, c'est la différence entre la vitesse à un tel endroit et la vitesse moyenne à cette profondeur-là. Par exemple, ici, si la profondeur, la vitesse moyenne, je dis n'importe quoi, c'est 10 km par seconde, quand c'est rouge, c'est pas 10, c'est 9. Quand c'est bleu, c'est que c'est pas 10, c'est 11. Ici, si la vitesse moyenne, c'est 12 km par seconde, ça va plus vite qu'on est en bas. Quand c'est rouge, c'est 11, et quand c'est bleu, c'est 13. Donc c'est pas une vitesse absolue, c'est une anomalie de vitesse, qu'on peut traduire en anomalie de température. Et vous voyez sur cette coupe que là, il y a une subduction. Et la partie froide descend et visible jusqu'à 2400 km de profondeur. La partie froide, grosso modo, c'est l'hélitosphère océanique qui subducte, vous savez. Eh bien, elle subducte au moins ici jusqu'à 2400 km, peut-être là. Puis là, vous avez une dorsale. Ben, la dorsale est anormalement chaude. Alors, l'hélitosphère océanique, c'est toujours anormalement chaud, parce qu'ici, c'est une hélitosphère océanique qui est jeune. Hein, ça c'est la dorsale, c'est la plaque Nazca. Donc par rapport à la moyenne du monde, elle est jeune, donc elle est chaude. Là, c'est un vieux bouclier, un vieux craton brésilien, donc elle est anormalement froide. Parce que ma coupe est là. Et vous voyez que la lithosphère est chaude, mais c'est normal, mais le chaud ne vient pas de bas. Il y a peut-être quelque chose, mais là, dans tout le haut, on montre du manteau chaud qui vient, qui monte comme ça, qui vient du bas. On ne voit rien venir du bas. Donc, la tomographie semble bien montrer que les subductions, rappelez-vous, subduction, ça va jusqu'en bas, c'est vrai. Et au niveau des dorsales, il n'y a rien de chaud qui monte de profond. C'est vrai. Donc la tomographie sismique, avec une résolution qui n'est pas idéale, qu'est-ce qu'elle est, ça confirme les subductions, ça va bas, ça va loin. Les dorsales, c'est un phénomène superficiel. C'est pour boucher le trou qui se fait parce que vous tirez. Alors il y en a d'autres, hein. Là j'ai montré une coupe qui va de là à là. On voit la subduction sous la Californie. Et la dorsale est anormalement chaude par rapport à la lithosphère océanique, qui est une lithosphère très lente. Hein, mais le chaud ne va pas loin. C'est chaud sur 200, anormalement chaud sur 200 km. Et après, c'est parfaitement normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manteau profond qui remonte sous la dorsale. Cela confirme ce que suggérait fortement la théorie. Les subductions majeures sont actives et descendent jusqu'au noyau. Les dorsales ne sont souvent que des remontées locales et passives qui ne s'enracinent pas en profondeur. Alors, quelques exemples de slabs. Slab, c'est le mot anglais pour dire plaque plongeante. Alors là, vous avez là où vous allez la trouver. Assez souvent, pas toujours, mais assez souvent, par exemple ici et là, les slabs s'arrêtent à 670 km et ne vont pas plus loin. Ici, ils s'arrêtent et ils continuent. Quand ils arrivent à la transition ringwoodite, bridgmanite, magnésiovustite, il a l'air d'avoir du mal à rentrer. Ça coince. Là, il n'est pas passé. Là, il n'est pas passé. Là, il est passé sans problème. Là, il est passé sans problème. Là, il est passé sans problème. Là, il hésite, il passe pas, puis finalement, il passe. Comment expliquer ça? Voilà les diagrammes de phase. Température, pression, gigapascal, ici, profondeur en kilomètres. Olivine, normale. Wazelite, ringwoodite, bridgmanite et magnésiovustite. Ça, c'est les densités. Alors, c'est une erreur du diagramme parce qu'une densité n'a pas d'unité. Vous savez ce que c'est que la définition de la densité? C'est un rapport entre la masse de quelque chose, par exemple la masse de fer, et la masse d'un égal volume d'eau. Donc, si vous prenez un décimètre cube de fer, ça pèse 8 kg. Un décimètre cube d'eau, ça pèse 1 kg. Le rapport, c'est 8. La densité du fer, c'est 8. Ça n'a pas d'unité. La masse volumique du fer, en système international, c'est 8000 kg par mètre cube. On peut dire 8 kg par décimètre cube. Ou 8 grammes par centimètre cube. Mais ce n'est pas le système international. La vraie densité, qui est marquée ici, c'est en kg par mètre cube, mais ce n'est pas une densité. Donc, comment s'appelle ce qui se mesure en kg par mètre cube? C'est la masse volumique. Faites attention de ne pas faire ces petites erreurs, c'est pas dramatique. Celui qui a fait ce schéma l'a fait, et je l'ai laissé exprès pour vous insister là-dessus. C'est maladroit. Évitez les maladresses. Ça sert à rien si vous êtes le majeur de la grègue, ça sert à rien si vous êtes 500e, mais quand vous êtes vers le 65, 70e, ça compte. Donc, voici la densité de l'olivine alpha, de la wazdéléite, de la ringwoodite et du mélange bridgmanite perovskite. Ça, c'est la droite de changement de phase, qui est une certaine pente. Vous savez comment s'appelle la pente des droites de changement de phase? Pente de Clapeyron. Vous avez des choses que vous avez dû entendre dans votre vie. Là, la pente de Clapeyron est positive, là, elle est positive, et là, elle est négative. C'est comme ça, ça se mesure expérimentalement. Ça peut certainement se calculer en faisant de la thermodynamique. Alors, imaginez un slab qui arrive, qui plonge, qui est plus froid que son environnement. Quand il arrive à 400 km, il est plus froid que son environnement. S'il était plus chaud, il changerait de phase, une profondeur qui ne serait pas 400, mais peut-être 450. S'il est plus froid, il change de phase, non pas à 400 km, mais à 380. Donc, quand il arrive à 400, il est déjà en voie de se déliter. Donc, il est déjà plus dense. Donc, s'il est déjà plus dense, il n'a aucune raison de s'arrêter. Donc, il passe. Par contre, là, c'est l'inverse. Vous êtes de la ringwoodite. Vous êtes plus froid que l'environnement. Vous arrivez à 670 km. Si la température était normale, vous changeriez de phase. Mais là, ben, vous ne changez pas de phase. Parce que vous êtes trop froid. Donc, vous restez avec votre densité de 4000 et vous avez du mal à rentrer dans ce qui est plus lourd. Donc ici, vous stagnez parce que, comme vous êtes plus froid et que le pente de Clapeyron est négative, vous êtes moins dense et vous avez du mal à rentrer. Mais une fois que vous êtes rentré, vous vous réchauffez et vous passez. Donc, ces segments horizontaux prouvent la réalité de la subduction. C'est bon que ça colle. On est content. Qu'est-ce que vous diriez ? Oh, peut-être faire encore un truc, là. Voilà, on va faire encore un truc. Une autre source de données qui confirme que les plaques majeures, les grandes plaques, je ne parle pas des petites plaquettes, sont beaucoup plus mises en mouvement par les subductions que par les dorsales, c'est les données de la géodésie spatiale, puis d'autres données, qui donnent le mouvement absolu des plaques dans un repère, on va dire, galiléen, lié à la Terre, et non pas lié à Paris, Londres ou New York. Alors, ça, c'est la représentation classique de la tectonique des plaques dans les livres. Vous avez des mouvements relatifs, hein, par exemple, entre l'Afrique du Nord et l'Amérique du Nord, ça s'écarte de 2,5 cm par an. Là, souvent, ils ne mettent pas l'unité, c'est des centimètres par an. On devrait dire, en système international, des mètres par seconde, mais ça ferait des 10 moins beaucoup, c'est pas facile à manipuler. Pareil, la dorsale ici, dans l'océan Indien au nord, c'est 2,5 cm par an. On peut mesurer le mouvement absolu des plaques, grosso modo, avec les satellites, c'est par rapport au moment d'inertie majeure de la Terre. Souvent, on représente ça par rapport à une plaque qui ne bouge pas beaucoup. Et souvent, quand on est égoïste et impérialiste, la plaque Europe. Il y a des plaques qui bougent beaucoup par rapport à la Terre, à la masse de la Terre, et puis d'autres qui bougent vraiment pas beaucoup. Ça, c'est le mouvement absolu. Par exemple, l'Afrique bouge, pour simplifier, remontant vers le nord-est. La plaque indo-australienne bouge en remontant aussi vers le nord-est, mais beaucoup plus vite. Regardez ce qui se passe là. Ici, sur les mouvements cartes classiques, ça s'écarte de façon symétrique, 2,5 cm, 1,25 d'un côté, 1,25 de l'autre. Ici, ça s'écarte, enfin, la plaque indo-australienne va à l'est vers 6 cm par an, celle-là ne va à l'est que de 3,5 cm par an, ce qui fait un écartement relatif de 2,5 cm par an. C'est comme quand vous avez une voiture qui avance à 100 km/h, une autre qui avance, qui la double à 110 km/h, elles vont dans le même sens, mais il y a un écartement relatif. Ce n'est pas parce qu'il y a une voiture qui avance et une voiture qui recule, parce qu'il y a une voiture qui va plus vite que l'autre. Alors, prenez les plaques et vous, là, sur toutes les plaques, vous mettez la vitesse. Alors, ça dépend vraiment du rapport, du repère que vous prenez. Dans la littérature ou dans un TP, vous pourrez avoir différents types de cartes, il faut bien faire attention, il y a différents modèles, vous aurez 3 ou 4 heures sur la technique des plaques, il faudra bien faire attention. Mais globalement, vous voyez qu'il y a des plaques, j'ai marqué L, lente, puis des plaques, j'ai marqué R, rapide. Si dans un diagramme, vous mettez la vitesse absolue des plaques, centimètres par an, et là, le pourcentage de plaques qui subductent, c'est-à-dire prenez une plaque, je ne sais pas, la plaque africaine, la plaque africaine, elle subducte. Où est-ce que subducte la plaque africaine? Toi, là. Toi, t'as interposé. Toi, derrière, là. ou est-ce que subducte la plaque africaine? Il y a les Alpes, c'est plus tellement une subduction, mais enfin grosso modo, il y a la subduction éolienne, la subduction égéenne, puis éventuellement les Alpes. C'est trois fois rien. Les Alpes, c'est bloqué. Il y a la subduction égéenne, au large de la Grèce et au large de l'Italie. Donc le pourcentage par rapport aux limites de plaques, ça doit faire 1% de la périphérie de la plaque africaine qui subducte. Si tu prends par exemple la plaque Nazca, c'est celle comme ça, tu en as au moins un bon tiers qui subducte sous les Andes. Tu as des dorsales, mais tu as... Si tu prends ici la vitesse des plaques, et là le pourcentage des plaques qui subductent, ce n'est pas le pourcentage de subduction, c'est la plaque qui subducte. Par exemple, l'Amérique du Sud, il y a une subduction dessous. Mais elle, elle ne subducte pas. Eh bien, le pourcentage des plaques qui subductent, vous avez l'Eurasie, l'Amérique du Nord, ça, c'est des plaques qui ne subductent quasiment pas. Et ça, c'est des plaques qui subductent beaucoup. La plaque philippine, c'est celle record, elle a quasiment 40% de sa périphérie qui subducte. Et là, c'est la vitesse. Grosso modo, si vous divisez les plaques en deux, les lentes et les rapides, les lentes, ça ne subducte pas. Et les rapides, ça subducte. C'est quand même une belle indication que la subduction a un rôle important. Alors là, c'est un autre diagramme qui est pareil. Là, c'est le rapport entre la vitesse d'une plaque et la vitesse moyenne. Quand c'est vert, c'est que la plaque va comme la moyenne. Et en gros, il y a beaucoup de plaques qui vont moins vite. C'est celles qui ne subductent pas. Et beaucoup de plaques qui vont plus vite, c'est celles qui subductent. Alors, quand j'étais petit, à votre place, c'était les dorsales qui faisaient tout. Et il y a plein de vieux cons, qui n'étaient pas si cons que ça, qui ne croyaient pas à la tectonique des plaques, parce que ça gênait leur modèle. Hein. Pendant 40 ans, vous avez appris quelque chose, puis on vous raconte tout ce que vous avez enseigné, c'est faux. Il y a des gens, hein, prenez un taliban, dites-lui qu'Allah n'existe pas, ou qu'Allah a dit que les femmes étaient l'égale de l'homme, ça, il ne veut pas, hein. Beaucoup de géologues disaient « Non, les plaques, c'est... Non, non. » Et ils avaient des arguments qui n'étaient pas idiots. Ils disaient « Prenez la plaque Afrique. » Et vous nous dites que les dorsales, ça s'écarte. À l'époque, ça s'écartait. On savait ça avec les anomalies magnétiques, tout ça. Puis on disait, beaucoup disaient, ça poussait. La dorsale atlantique, ça pousse. Admettons. Ça s'écarte, ça c'est sûr. D'après les anomalies magnétiques, les géologues disaient « Mais est-ce que vous êtes sûr que... » Bon, mais là, ça pousse dans l'autre sens. Pareil pour la mer Rouge. Vous avez donc l'Afrique, qui est compris entre deux dorsales, une qui pousse vers l'est, et l'autre qui pousse vers l'ouest. L'Afrique devrait être en compression. Forcément. Or, l'Afrique n'est pas en compression, elle est en extension, ça se voit très bien avec le grand rift africain. Donc les vieux géologues, qui n'étaient pas si cons que ça, disaient « Mais... votre truc, ça marche pas. » Alors eux, ils niaient les plaques, et certains géophysiciens qui avaient été tout contents de leur modèle, ont dit « Oui, il doit être imparfait. En fait, les dorsales ne poussent pas tant que ça. Les plaques, c'était bon, mais c'est que les dorsales ne poussaient pas. » Et 10 ans après la technique des plaques, on les faisait encore un peu pousser. Faites toujours attention entre la réalité, les modèles et tout. Alors c'est pareil pour la plaque antarctique. Vous avez la plaque antarctique, elle est cernée de dorsales. Donc elle grandit, comme la plaque africaine d'ailleurs. Elle grandit, elle n'est pas en compression. Et les points chauds dans tout ça? Alors, la première fois historiquement qu'on a fait la tomographie sous un point chaud qui montrait, en l'occurrence c'était l'Islande, qui est un point chaud un peu atypique, puisque c'est un point chaud sous une dorsale, mais qui montrait qu'il y avait quelque chose d'anormalement lent, point de vue vitesse, donc a priori d'anormalement chaud, par rapport à la profondeur. Donc, qu'il y avait un panache de machins chauds qui montait sous l'Islande. Une dorsale ordinaire, rien, à partir de 3, 4, 5 km. Sous l'Islande, il y a quelque chose beaucoup plus profond que 3, 4, 5 km. Là, c'est un certain nombre d'exemples de points chauds dans le Pacifique, Hawaï, Samoa Cook, Tahiti Cook, et vous avez une anomalie de vitesse, donc a priori une anomalie thermique, jusqu'à l'interface noyau-manteau. Donc, rappelez-vous qu'il y avait trois cas de convection. La convection que tout le monde fait, une casserole chauffée par le bas et refroidie par le haut, avec ce type d'A. Tout le monde l'a fait, dans tous les livres, il y a ça. Et ça ne concerne a priori pas la Terre. Il y a souvent une très bonne opposition de phase entre ce qu'on trouve dans les livres, ce que, dans les programmes, ce qu'on fait, et la réalité. Plus souvent, une chose qui est bien montrée, c'est souvent que ce n'est pas vrai. Hélas. Deuxième cas théorique, pas du tout de chauffage par en bas, que de la chauffage par la masse, comme ça. Et puis j'ai mis le troisième cas, surtout chauffage par la masse, mais il y a quand même un petit peu de chauffage. Et ça ferait ça. Eh bien, a priori, pour expliquer les points chauds, des trois possibilités théoriques vues précédemment, la troisième possibilité serait la bonne. Globalement, les dorsales, c'est trois fois rien. Les subductions, c'est majeur. Et les points chauds, ben, il y en a un petit peu quand même. Je pars en régime stationnaire. Quand un point chaud commence, ça peut être plus vigoureux et plus violent. On y reviendra. Alors, une autre preuve que le manteau qui fond partiellement sous les dorsales, il vient de pas profond. C'est machin, ça s'écarte ici parce que ça tire, ça racole à droite et à gauche, mais je ne vais pas chercher la matière bien loin en bas. C'est la géochimie, pareil, vous verrez ça, avec les isotopes du samarium, du néodyme, du strontium, du rubidium, on peut séparer un manteau superficiel, c'est lui qui fond pour former les basales des dorsales, qui est différent isotopiquement du manteau qui fond pour faire les basales des points chauds ordinaires, par exemple les Açores. Là, vous avez donc, vous verrez ça. Ceux qui n'ont jamais vu ça, vous le verrez. Ceux qui l'ont déjà vu comprennent. Ça montre simplement que ce diagramme, que ce qu'ils font sous une dorsale normale, c'est pas la même chose que ce qu'ils font sous un point chaud normal. Sous l'Islande, qui est un point chaud sous une dorsale, et bien justement, c'est entre les deux. On est content. Donc, ce qui se passe, la fusion, vous savez pourquoi le basalte fond ? Tiens, on va demander à. Au monsieur qui a une veste rouge et qu'au deuxième rang, pourquoi est-ce qu'il y a de la fusion du manteau pour faire du basalte, par exemple, une dorsale ou un point chaud ?
Parce qu'il y a une décompression.
Et que vu la pente du solidus, ça fond. Eh bien, sous une dorsale, la décompression, c'est du manteau qui vient de pas profond, ça s'écarte, ça racole et il y a une fusion partielle ici. Sous un point chaud, ça vient de beaucoup plus profond. Alors la fusion partielle, elle est superficielle. Hein. Beaucoup de gens disent que c'est un panache de magma. C'est pas un panache de magma. C'est un panache de manteau chaud. Et le manteau chaud remonte. Et pareil, dans les mauvais films de Nicolas Hulot, ses films sont très bien si on coupe le son. Parce que les images sont très bien. Alors qu'est-ce qu'il dit comme connerie quand il parle de géologie ? Il faut l'image d'un panache avec un chalumeau, puis une plaque. C'est pas un panache de chaleur. C'est de la matière chaude qui monte. Et quand elle arrive près de la surface, elle s'est tellement décomprimée qu'elles font par là. Mais elles font presque à la même profondeur que sous une dorsale. Mais le matériel sous une dorsale vient de pas profond. Le matériel sous un point chaud vient de profond. Et isotopiquement, on voit la différence. Alors, mettons qu'actuellement sur la Terre, il y a à peu près une cinquantaine de points chauds. Tout le monde savait ce que c'est qu'un point chaud, je n'ai pas défini, mais enfin, je pense quand même, si vous êtes là, c'est que soit vous êtes géologue, soit vous avez fait des études biologie-géologie. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas fait de géologie depuis la prépa ? Non. Il y en a un, deux, mais vous avez vu les points chauds en prépa. Donc, là, je vois en L3, là, il y a quelqu'un qui vient du master, qui vient de physique. Donc, il n'a pas fait de géologie depuis le bac. Et il va falloir qu'il... Bon, c'est... Donc, vous avez tous quand même au moins un vernis de culture en géologie. Donc, il y a une cinquantaine de points chauds. Si on suppose qu'un point chaud, ça fait à peu près 100 km de diamètre, panache chaud, mis bout à bout, si vous faites 50 fois 100, ça fait 5000. Donc, c'est quand même un chapelet qui, virtuellement, s'ils étaient tous côte à côte, ferait 5000 km de long. Il y a à peu près 50 000 km de zone de subduction et de dorsale, qui, d'après cette hypothèse simpliste, les dorsales sont la conséquence de la subduction. Donc, il y a à peu près 10 fois plus en longueur de subduction, de dorsale, et de subduction, mais de dorsale, on parle des dorsales, que de points chauds. La majorité de la chaleur est évacuée sur Terre par les dorsales. Si vous prenez une carte, on l'a vu au début, une carte du flux thermique, c'est au niveau des dorsales que c'est très chaud. C'est les dorsales qui émettent 90% de la chaleur, mais les dorsales, c'est passif. Les dorsales ne marchent que parce que les subductions font bouger les plaques. Donc, 90% de la chaleur s'évacue par le mécanisme dorsal qui est passif, et il n'y a que 10% de la chaleur qui est évacuée par les points chauds, qui eux sont actifs, la montée est active, ça remonte parce qu'ils sont plus chauds que le reste, et ils montent. Donc dans la compétition remontée active, remontée passive, c'est la remontée passive, conséquence de la subduction, qui gagne de loin. Dans un régime normal, actuellement, les points chauds, c'est pas grand-chose. C'est actif, mais pas grand-chose.